un univers prenant et un gameplay plutôt plaisant, et qui suscite chez le joueur une envie d'aller plus loin, comme par exemple passer au niveau supérieur, récolter d'autres items, ou devenir le meilleur du classement, ou d'autres choses encore. Je pense que ce phénomène est surtout présent dans les jeux en ligne avec beaucoup de joueurs, car il y a de grosses communautés qui se créent et ça fait une sorte de deuxième vie en parallèle de la vie réelle.
World of Warcraft, Dofus, Counter-Strike et bien d'autres encore. Les jeux vidéo font partie de la vie de la plupart des adolescents. Les passe-temps d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les jeux vidéo ont su s'imposer comme un véritable phénomène de société. Mais ils sont souvent jugés comme néfastes. Cette inquiétude vis-à-vis de l'utilisation du jeu peut aller jusqu'à la comparaison à l'alcool, voire aux drogues. Cette crainte est-elle vraiment fondée ? Depuis quelques années, on entend parler de MMORPG, autrement dit, de jeux de rôle massivement multijoueurs qui permettent de jouer en ligne, en temps réel, avec d'autres personnes à travers le monde. Cette catégorie de jeux apparaît comme particulièrement addictogène dans la mesure où ils sont en constante évolution. C'est notamment sur ces jeux que les jeunes passent du temps et parfois au détriment de leurs études. Ce comportement a tendance à faire peur à l'entourage. La question est de savoir si le problème est réellement l'utilisation du jeu vidéo.
Les médias parlent alors souvent d'addiction au jeu. Mais peut-on vraiment utiliser ce terme ? Nous nous sommes rendus à la clinique du jeu pathologique. Les activités de cette clinique sont la recherche et l'aide aux personnes qui ont un problème de jeu. Nous y avons rencontré le docteur Minet, thérapeute clinicien qui assure la coordination scientifique de la clinique.
Paradoxalement, même si vous êtes dans un lieu, dans un hôpital qui traite les dépendances aux jeux de hasard, aux jeux sur Internet, moi je suis prudent avant de parler d'addiction. On parlera en tous les cas de comportement excessif avec l'ordinateur. Et dans une certaine limite, on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui entrent véritablement dans un lien de dépendance, d'addiction, c'est-à-dire elles n'ont plus la liberté d'arrêter de jouer, ça c'est un. Et deuxième conséquence, elles vivent des difficultés sur le plan familial, social, scolaire, elles sont tout à fait désocialisées par rapport à la réalité. À partir de là, on peut s'interroger s'il y a une addiction, ça veut dire une maladie, c'est une pathologie. Et là, je suis très prudent, donc je le répète, et je dirais que c'est à essayer de voir dans un contexte à la fois familial, mais voir aussi dans quelle mesure la santé mentale du sujet peut être altérée à certains moments avec 17 heures à 20 heures de jeu.
Les spécialistes que nous avons rencontrés préfèrent ainsi utiliser le terme de jeu excessif plutôt que celui d'addiction. Pourquoi ? Les jeux vidéo ne créent pas obligatoirement une dépendance à partir du moment où on commence à jouer. C'est un phénomène rare qui ne touche qu'une petite partie de la communauté des joueurs. On parle de moins de 4% des joueurs selon les diverses statistiques.
Un lexique du jeu vidéo s'est développé au sein de la communauté des joueurs. Certains mots permettent de faire une classification de différents joueurs selon leur temps passé devant leur écran. Laurent Bellhomme, psychologue à Psycampus.
Il y a trois types de joueurs qui sont désignés, et on pourrait dire il y a les joueurs occasionnels, donc les casual players, les hardcore gamers qui sont beaucoup plus présents et qui sont des joueurs assidus, on pourrait dire, qui est donc une deuxième catégorie, et finalement la catégorie des no life, donc ceux qui n'ont pas de vie. Ce qui veut dire en gros qu'ils passent tout leur temps sur le jeu, peut-être, mais surtout ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à vivre une autre vie en dehors de l'espace de jeu.
Les no life, ce terme a vu le jour avec l'émergence d'Internet et des jeux en ligne. On en parle de plus en plus, et notamment quand il s'agit du MMORPG World of Warcraft. Des millions de joueurs se sont laissés tenter par ce jeu. Fin 2006, le nombre d'abonnés était d'environ 6 millions de joueurs. Deux ans plus tard, il dépassait les 11 millions selon la société de développement Blizzard Entertainment. Un nombre de joueurs qui augmente constamment, des jeux de plus en plus développés et attractifs, face aux problèmes que cela cause parfois, des associations d'aide aux personnes addictes ont étendu leur accueil à celui des joueurs excessifs. C'est le cas de l'association Le Pélican qui permet aux joueurs d'apprendre à réguler leur rapport au jeu. Nous avons rencontré Marc Kruipenink, thérapeute au sein de l'association.
Je pense qu'au départ, la difficulté est principalement dans ce que consacre comme priorité la personne face au jeu. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui joue 4 heures par jour face à l'écran n'est pas spécialement quelqu'un qui va être addictif. Pour autant que lorsque cette personne se retire du jeu, elle a toutes les sphères sociales autour d'elle. Ces activités où le jeu ne va pas venir parasiter. Par contre, une personne qui, par exemple, admettons, jouerait une heure par jour, mais qui après avoir quitté l'écran ne peut plus se passer de l'idée du jeu et qu'elle est parasitée presque, je dirais, en permanence, alors là, on peut dire que c'est une personne qui a un problème d'addiction au jeu. Vous voyez, elle ne parvient pas à se détacher. Elle est toujours dans qu'est-ce que je vais faire comme stratégie, quand est-ce que je vais y retourner, qui serait peut-être maintenant là, etc. Et donc, elle ne parvient pas à décrocher. Là, on peut dire que c'est un comportement qui va être problématique et qui peut-être sous-tend une addiction.
Ce public à risque est difficilement identifiable car il n'y a pas de joueur excessif type. Cela dépend de la personnalité du joueur, de ses caractéristiques psychologiques, voire de son environnement. Pour cette catégorie de joueurs, le comportement au quotidien devient problématique et peut aller jusqu'à des situations extrêmes. Les médias ont déjà rapporté des cas de joueurs qui oubliaient de manger, de dormir, bref, d'accomplir des besoins vitaux. Comment faire face à ces situations difficiles ? À l'association Le Pélican, on propose d'abord d'évaluer le rapport au jeu.
C'est clair que dans un premier temps, nous faisons ce qu'on appelle, entre guillemets, un bilan. Hein, c'est-à-dire, quelle est la place du jeu ou de la pratique du jeu dans la vie de la personne ? Pour voir les différentes sphères qui entourent la personne et de voir qu'est-ce que ça vient prendre comme place, d'une part, et puis d'analyser en quoi c'est un problème pour la personne. Hein, est-ce que c'est parce que ça lui trotte dans la tête tout le temps? Est-ce que c'est parce qu'une fois qu'elle commence à jouer, elle ne parvient plus à s'en décrocher? Enfin, voilà, c'est là-dessus. Au départ, c'est vrai que nous allons travailler principalement au niveau du comportement, parce que nous avons des personnes qui viennent avec des questions « qu'est-ce que je dois faire ?»
Le rôle de la famille du joueur est également important dans le processus de traitement. Docteur Minet, de la clinique du jeu pathologique.
Mon collègue me disait, il avait reçu hier une famille qui demandait « Est-ce qu'il faut couper l'ordinateur tout de suite parce que mon fils... » Non, 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 surtout pas. C'est ce qui fait l'escalade de violence. Donc on essaye de ne pas sevrer, d'équilibrer le jeu. Et si la famille accepte l'idée qu'on travaille tous ensemble, ça va relativement vite pour réaménager la vie ensemble.
La médiatisation de ces cas extrêmes accentue la tendance à critiquer les jeux vidéo en ligne. Les inquiétudes parentales semblent alerter le pouvoir politique. Ce qui est considéré à tort comme une addiction aux jeux vidéo devient un problème de santé publique. Didier Donfu, ancien ministre wallon chargé de la santé, a lancé en 2008 une étude sur la cyberdépendance en Wallonie. Le but annoncé est de remédier aux possibles effets pervers des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors faut-il mettre en place des moyens de prévention ? Ce point fait débat. Laurent Bellhomme de Psycampus.
Essayer que le politique soutienne le social et les services de santé mentaux pour les aider à faire face aux problématiques émergentes, certainement, mais en articulation alors avec les personnes de terrain et d'une manière qui colle à ce qu'on a pu penser et réfléchir sur les manières d'approcher ces problèmes-là. Donc, je pense que, par exemple, ça devient maintenant une porte d'entrée dans les demandes de consultation qui est excessive. Les parents sont souvent très inquiets que leurs jeunes soient dans des consommations excessives et soient dépendants aux jeux vidéo. J'ai beaucoup, beaucoup plus de demandes qui vont dans le sens d'une inquiétude peut-être excessive, en tout cas sur ce point-là, parce que parfois il y a des problèmes, mais ils ne sont pas du tout là, que de demandes où effectivement le jeune est ennuyé par cet aspect-là des choses.
Sensibiliser, oui, mais sans diaboliser. Voilà ce que réclament les associations. Dans la plupart des cas, le jeu est bien utilisé et il peut même avoir des aspects positifs autres que celui d'être distrayant.
Il y a quand même une grande variété de jeux aussi. Je pense que celui qui joue à un jeu de type gestion, par exemple, stratégie en temps réel, mettons par exemple, ça va lui demander des ressources internes qui vont être de bien trier, de réfléchir vite à des rapports de force, à des quantités. Bon, celui qui joue à un FPS, un first person shooter en ligne comme Counter-Strike, voilà, qui est un jeu bien connu, là, ça va lui demander pas beaucoup de choses de l'ordre de Enfin, oui, il y a des aspects stratégiques, mais ça va aussi être au niveau de la performance, de la rapidité de réaction. Les jeux peuvent faire appel à des mécanismes très différents.
Mark Kruipenink, de l'association Le Pélican, voit les jeux vidéo un autre aspect non négligeable qui a tendance à s'opposer aux idées reçues.
Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un versant positif qui est le tissu social, même s'il est virtuel. Donc c'est une façon de rentrer en communication, en relation moderne, on va le dire comme ça, qui a aussi toute son importance. Alors, c'est clair que si une personne s'investit dans un personnage, hein, un artefact, et que tout d'un coup, elle s'identifie à ce personnage, mais qu'elle n'en décolle pas, là, effectivement, ça va poser problème. Par contre, si vous avez une personne qui se préoccupe de rentrer en relation avec les autres pour progresser dans le jeu avec elle, etc., ben là, il y a un tissu social. Hein, d'accord ? Donc là, effectivement, c'est le côté positif.
Trop souvent, les inquiétudes des parents face aux jeux vidéo les poussent à interdire à leurs enfants de jouer. Mais cette interdiction pure et simple n'est pas la solution. Il s'agit pour les parents d'apprendre à détecter les comportements addictifs de leurs adolescents. À partir de là, ils devront se demander quelle est la raison de ce comportement et ne pas condamner uniquement les jeux vidéo. Il serait plus utile d'accepter les jeux vidéo dans la vie de famille, à condition de fixer des règles d'utilisation. Car n'oublions pas que finalement, jouer est d'abord un besoin naturel et un plaisir ressenti à tout âge.